Cet après-midi à l'émission, c'est le moment de cette chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Et on reçoit, comme à l'habitude, Maître Geneviève Graton, qui est directrice du CJPO. Bonjour Geneviève.
Bonjour Sébastien.
Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Chaque mois de février, on en profite pour commémorer l'histoire de la diaspora africaine, des Afro-descendants. Ça a été souligné, ça, pour la première fois aux États-Unis en 1976. Et c'est un peu à ça qu'on va s'intéresser pour la chronique aujourd'hui. On va être un peu moins juridique, mais quand même bien informatif. On fera un peu d'histoire aussi. Et cette année, le thème pour le mois de l'histoire des Noirs, c'est « En février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et de nos jours ». Geneviève, c'est quoi l'histoire derrière cette commémoration? Je disais première fois en 1976, mais on va s'intéresser un peu plus en détail à ça aujourd'hui.
Oui, tout à fait, exactement. Mais avant tout, je voudrais reconnaître la valeur et la qualité des contributions que les personnes afro-descendantes et de la diaspora africaine ont apportées à la notoriété du Québec et du Canada. Aussi, pour le respect de toutes ces personnes, je vais utiliser en substitution du mot en N, le mois des personnes racisées, si ça vous convient.
Ben oui, parfait.
Mais pour revenir à la commémoration qui fait l'objet de la chronique, j'aimerais vous dire qu'avant la célébration, les célébrations étaient seulement sur une semaine. C'était la deuxième semaine du mois de février plutôt que sur le mois en entier.
OK, ben je savais pas pourquoi est-ce que cette semaine-là, c'est elle qui a été choisie précisément.
C'est une excellente question. En fait, elle s'appelait « Semaine de l'histoire des personnes racisées ». C'est vraiment intéressant d'apprendre pourquoi on a choisi cette semaine-là en particulier. C'est parce que ça coïncide avec l'anniversaire d'Abraham Lincoln le 12 février et de Frederick Douglass le 14 février.
Okay.
Ça, c'est deux dates qui sont célébrées par les communautés afro-descendantes américaines depuis la fin du 19e siècle. Puis, j'ai pas besoin de vous apprendre que Abraham Lincoln a été le président américain qui, grâce à qui, il y a eu l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et Frederick Douglass, lui, a vraiment grandement et milité toute sa vie à l'abolition de l'esclavage. C'est seulement, par exemple, 100 ans plus tard, en février 1970, qu'il y a une association étudiante ici des communautés racisées de la Kent State University aux États-Unis qui va décider de célébrer pendant tout un mois.
Puis là, c'est quoi l'objectif, le message véhiculé par cette commémoration-là?
Bien, le mois de l'histoire des personnes racisées, c'est l'occasion d'honorer les contributions énormes que les personnes issues de la diaspora africaine et des afro-descendants ont apportées, puis continuent d'apporter dans tous les secteurs de la société, dans le monde en général. C'est aussi l'occasion de célébrer la façon dont les Canadiens issus de notre communauté ont contribué à l'histoire et à la culture de notre pays. C'est un moment pour se rappeler les injustices que ces personnes ont vécues au cours des derniers siècles et surtout pour apprendre des erreurs du passé pour construire un mieux vivre ensemble. Puis on ne se le cachera pas, là, les communautés racisées font encore face là, au racisme puis à de nombreux défis d'intégration et de reconnaissance de leurs compétences, entre autres. Fait que c'est une belle occasion d'en apprendre un peu plus sur leur réalité pendant tout un mois.
Justement, là, on parlait des Canadiens et Canadiennes issus de cette communauté-là qui ont contribué à l'histoire, la culture du pays. Si on, je vois au jeu d'en nommer quelques-unes de ces personnalités afro-descendantes qui ont contribué à la notoriété du Canada, on aurait quoi sur notre feuille, sur notre bout de papier?
Et j'aimerais vous parler de personnalités canadiennes et qui ont fait notre fierté, mais peut-être un peu plus dans le passé. Si je vous dis, Sébastien, le nom Viola Irène Davis Desmond, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Ben oui, mais je n'aurais pas répondu ça il y a une dizaine d'années, par contre. Le 10 $ y a joué pour beaucoup, je dirais.
Ah oui, vous avez totalement raison. Et c'est un des gestes qui a contribué à faire connaître son histoire. Viola Desmond est née à Halifax, en Nouvelle-Écosse, en 1914. Puis c'était une femme d'affaires prospère qui a lutté pour les droits civiques des personnes racisées. Mais elle a été emprisonnée pour non-respect de la ségrégation raciale dans une salle de cinéma. À cet effet, elle a reçu des excuses publiques à titre posthume de la Nouvelle-Écosse. Et vous avez raison, Sébastien, de le mentionner. Maintenant, depuis 2016, elle figure sur le billet de 10 $ canadiens. Mais j'aimerais aussi vous parler de l'honorable Juanita Westmoreland Traoré, qui est la première personne racisée à accéder à la magistrature au Québec en 1999.
Oh, c'est récent quand même. Québec.
Oui, c'est ça, on dirait. C'est presque hier. Quand on y pense, il n'y a pas très longtemps. Mm-hmm. Donc, Madame la juge Westmoreland Traoré se retrouve à être, tant par ses accomplissements que par son caractère, une figure exemplaire pour la communauté afro-descendante, mais aussi, je vous dirais, là, pour toute la communauté juridique canadienne.
Ça, c'est pour le passé. Si on regarde le présent maintenant, quelle personnalité, là, sur quelle personnalité est-ce qu'on pourrait mettre les projecteurs?
Bien, il y en a beaucoup. Mais par souci de temps, je vais prendre au hasard trois personnes provenant de divers domaines, puis vous allez les reconnaître, là. Tout d'abord, il y a Dominique Anglade, qui est la première femme racisée à être chef du Parti libéral au Québec, mais aussi la première femme tout court à occuper le poste depuis la création du parti en 1867, mm-hmm. Donc il était temps. Elle fait donc un double exploit, la première femme et la première femme racisée. En fait, c'est la première femme racisée à occuper la tête d'un parti politique. Québécois, point. Il y a aussi Dany Laferrière, qui est, mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présentation, là. C'est un très, très grand auteur québécois d'origine haïtienne qui a écrit plusieurs livres qui ont marqué la littérature québécoise, mais dans toute la francophonie, en fait, là. Et mm-hmm. À tel point qu'en 2013, il a été nommé membre de l'Académie française. Puis, je vous parlerai de mon chouchou, c'est Boucar Diouf, puis je ne suis pas la seule à l'apprécier énormément. C'est un humoriste québécois, bien sûr. Puis je pense que tout le public québécois l'apprécie énormément, sûrement vous aussi, Sébastien.
Oui.
Mais saviez-vous qu'il a aussi un doctorat en biologie? Il a même déjà enseigné la biologie à l'Université du Québec à Rimouski au début des années 2000. En fait, c'est là qu'il a obtenu son doctorat. Mm-hmm. Puis c'est en faisant rire ses élèves qu'il a amorcé sa transition en tant qu'humoriste. Puis vous l'avez sûrement entendu dans une de ses nombreuses émissions de vulgarisation scientifique au ton humoristique à la radio ou à la télévision.
Oui, on dirait qu'il revient là, à la biologie un peu plus là, dans les dernières années. Là. Il revient à ses premières amours.
Oui, mais toujours avec humour.
Toujours. En dehors du Canada et des États-Unis, est-ce qu'il y a d'autres pays qui commémorent là, ce mois-là, ce mois de l'histoire des Noirs, un peu partout dans le monde?
Oui, bien, il y a le Canada, les États-Unis, l'Irlande, la France, la Grande-Bretagne, donc qui célèbrent ce mois-là. Ça fait seulement 5 pays. Moi, j'ai été estomaquée lorsque j'ai su l'information parce que je ne le savais pas du tout. Je l'ai appris en préparant la chronique.
Mmh, on a l'impression que ce serait un peu plus que ça, là.
Oui, oui, c'est décevant. On aurait pu croire que plusieurs pays, plus de pays que 5 pays seulement, auraient participé.
C'est la chronique du Centre de justice de proximité de l'Outaouais. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'accès à la justice pour les communautés racisées? Puis bien, le rôle que vous jouez justement dans ce dossier-là.
Oui, bien, votre question est vraiment pertinente parce que bien que l'accès à la justice soit garanti par les chartes canadiennes et québécoises des droits de la liberté et des droits et libertés, pardon, il y a certains groupes de personnes qui peinent à faire valoir ce droit pour plusieurs raisons. Donc, soit les frais de justice exorbitants ou la complexité lexicale des notions de droit. Puis, les populations racisées en font partie. Au Centre de justice de proximité, on a un personnel issu de divers milieux culturels qui est à la disposition de toutes les composantes de la population, et ce, nonobstant leur âge, sexe, race, origine, pour partager les informations juridiques dont elles ont besoin, puis ça, peu importe le domaine de droit, et toujours de façon gratuite et confidentielle.
Puis justement, si on a des questions, tout ça, pour des questions juridiques qu'on voudrait vous poser, il y a plusieurs moyens de vous joindre.
Oui, bien sûr. Je voudrais vous inviter, inviter toutes les communautés vivant sur le territoire de l'Outaouais à visiter le Centre de justice de proximité de l'Outaouais en appelant au numéro sans frais 1-844-606-4600. Vous pouvez aussi consulter nos coordonnées sur notre site Internet, nous suivre sur Facebook et Instagram. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais vraiment mentionner particulièrement aujourd'hui la part chaque semaine depuis janvier à cette chronique de notre excellente étudiante Véronique Ossour.
Ben voilà, le message est lancé. Ça se rendra à ses oreilles, j'en suis convaincu. Un grand merci de sa collaboration dans tout ça. Puis Geneviève, merci beaucoup pour le temps cet après-midi encore une fois.
Merci beaucoup à toi, Sébastien.